Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel
et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Nous recevons aujourd'hui Catherine Cocchiot, professeure de littérature comparée à l'Université Paris 7, pour son livre magistral « La littérature en suspens, écriture de la Shoah, le témoignage et les œuvres », publié début 2015 aux éditions L'Arachnéen avec le concours de la Fondation. Un ouvrage majeur qui relève tout à la fois de la critique des œuvres, de l'herméneutique et de la philologie, qui explore sur près de 500 pages l'immense continent de la littérature de la Shoah, construit pas à pas par les survivants à travers le monde. C'est bien d'un continent dont il s'agit, mais on pourrait aussi bien parler d'une forêt ininterrompue, pour reprendre le titre d'un livre qui est évoqué, celui de George Arthur Goldschmidt. On pourrait parler d'une forêt ininterrompue à propos de cette littérature dont nous découvrons, en vous lisant, Catherine Cocchiot, que nous n'en connaissons en réalité qu'une infime parcelle. Vous nous invitez à nous enfoncer dans cette forêt, à dépasser les arbres qui la cachent, qui nous cachent tous ces auteurs rejetés dans les marges, soit parce que leurs œuvres ne correspondaient pas au canon en vigueur ou qui n'ont pas eu le droit de citer pour des raisons politiques. Et qu'on redécouvre aujourd'hui largement, notamment par des travaux récents d'une nouvelle génération de jeunes chercheurs que vous intégrez remarquablement à votre réflexion. Vous avez placé votre ouvrage sous les auspices d'Imre Kertész, qui, lors de son discours de réception du prix Nobel de littérature en 2002, a prononcé cette phrase elliptique « Quand on écrit sur Auschwitz, il faut savoir que, du moins dans un certain sens, Auschwitz a mis la littérature en suspens ». Comment comprendre cette phrase, Catherine Cocchiot ?
Oui, merci. En fait, ce livre est en effet une espèce d'enquête, de réflexion pour tenter de comprendre ce que signifie ce suspens. Dans un certain sens, dit Kertész, il faut savoir que ce suspens n'est pas un arrêt. On sait bien que la littérature n'a pas été arrêtée après Auschwitz, ni même à Auschwitz, puisqu'il existe les fameux rouleaux d'Auschwitz, qui sont des textes pour partie d'intention clairement littéraire. Et donc, pour moi, il était important d'essayer de comprendre cette phrase qui m'a toujours retenue, d'abord parce que je trouvais la formule belle, mais aussi à la fois énigmatique. Et donc, j'ai essayé de l'interpréter au fil de la relecture de tous ces textes. Alors, je pourrais peut-être passer par deux autres images que Kertész a utilisées à propos de ce, et qui, à mon avis, expliquent ce qu'est pour lui, en tout cas, ce suspens, c'est-à-dire pas un arrêt de la littérature, pas non plus un adieu, pas non plus une destitution de la littérature, mais quelque chose comme une opération de séparation intérieure, interne à la littérature. Il dit dans ce discours de réception du Nobel qu'il a ensuite publié sous le titre Eureka dans l'Holocauste comme culture, il dit ceci: j'ai vite compris que les questions de savoir pour qui et pourquoi j'écrivais ne m'intéressaient pas. Une seule question me travaillait: qu'avais-je encore en commun avec la littérature? Car il était clair qu'une ligne infranchissable me séparait de la littérature et de ses idéaux, de son esprit, et cette ligne s'appelle Auschwitz. Voilà, donc il y a cette ligne infranchissable qui sépare de la littérature comme système gouverné par ce qu'il appelle des idéaux, un esprit de la littérature qu'Auschwitz obligerait à quitter, c'est-à-dire non pas à détruire, non pas à ignorer, non pas même à contourner, mais plutôt à en observer les signes du bord de cette ligne infranchissable qu'a créée et qu'a causée l'histoire, hein, et qui est devenue en fait le seul endroit, le seul lieu d'où on peut écrire, séparé de cet esprit de la littérature. En fait, Kertész ne s'explique pas sur cet esprit, et c'est là-dessus au fond que je me suis penchée beaucoup. C'est à la fois bien sûr ce qu'il appelle les illusions humanistes, hein, tout l'héritage humaniste, mais aussi à mon avis une certaine manière d'être nihiliste, hein, qui avait été celle de l'Europe moderne, et que d'ailleurs lui-même il reprend en héritage pour partie, mais qu'il dépasse. Et un des enjeux, c'est de dépasser, à mon sens, hein, à la fois le moment humaniste, les illusions humanistes, qu'il appelle même l'espoir, en fait, hein, qui, dit-il, est l'instrument du mal, est devenu l'instrument du mal avec les idéologies totalitaires, mais aussi ce moment nihiliste, hein, dont on hérite néanmoins avec cette espèce de nihilisme radicalisé même qui est le génocide. Donc la question, en fait, c'est ce qui reste encore en commun il y a une séparation, il y a cette ligne infranchissable, mais la question qui le travaille, c'est qu'avais-je encore en commun ? Donc il y a quelque chose qui reste en commun, et à partir de quoi on va continuer d'écrire, hein, il s'agit de saisir exactement le commun. Et il dit que le seul moyen, au fond, c'était quelque chose de tout à fait vécu, il explique ça, hein, à propos du moment où il a décidé de devenir écrivain. Lorsque très très jeune, puisqu'il a été déporté adolescent, il s'est posé cette question, hein, quoi faire de ma vie ? Et précisément, c'est ainsi qu'il le formule, que la littérature lui est apparue comme le seul moyen de reprendre sa vie, qui était son seul bien, au monstrueux Moloch qu'on appelle l'histoire. Voilà, c'est ainsi qu'il désigne, hein, ce qu'il a vécu. Donc la question pour lui n'était pas d'écrire pour un public, mais pour lui-même, et c'est cette découverte-là qu'il a faite, en fait, fait qu'il a appelé ce texte Eureka, d'ailleurs. Donc là, il évoque la découverte de Thomas Mann, d'Albert Camus, puis plus tard de Kafka, de Celan, Améry, et puis d'autres écrivains, y compris hongrois, Marai, Radnoti. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des espèces de guides, de phares, de frères aussi, hein, il en parle en ces termes à propos de Jean Améry. Et donc ils l'ont aidé à continuer de retirer sa vie à ce Moloch, hein, et à donner forme à sa vie, cette notion de forme qui est si importante chez lui. Deuxième image, c'est celle du point zéro. Voilà, il y a une tâche qui est au fond celle de la critique de la culture, hein, puisque on est arrivé avec le nazisme à ce point zéro, ce qu'il appelle le terminus d'une grande aventure où les Européens sont arrivés au bout de 2000 ans de culture et de morale. Et il faut, selon lui, découvrir ce qu'il appelle découvrir ce point zéro, qui donc n'est pas seulement une date historique, un événement historique, hein, c'est un événement d'un autre ordre. Et il faut le découvrir de telle sorte qu'on puisse conserver des forces créatrices, ou recréer, ou justement se ressourcer en forces spirituelles et créatrices, ce sont ces termes. Hein. Donc, et pour cela, dit-il, il faut épuiser la négativité de cette expérience, il faut aller au bout de cette confrontation, hein, il dit même venir à bout de la négativité de cette expérience, c'est-à-dire enregistrer la véritable rupture de contrat moral qui a eu lieu avec les fondements de la civilisation occidentale jusque-là, c'est-à-dire l'interdit du meurtre, et répondre à cette rupture de contrat. Et pour celui qui veut devenir écrivain, au fond, se séparer de l'esprit de la littérature, hein, suppose de fixer un nouveau contrat avec d'autres règles, qu'on va tirer justement de son existence propre, hein, et de la forme qu'on va donner à sa vie, et donc diviser la littérature d'avec elle-même à la manière un peu d'un schisme intérieur. J'utilise aussi, moi, par contre, c'est mon image à moi que j'utilise à plusieurs reprises, donc pas un adieu, mais plutôt un schisme interne. Et donc à partir de ce moment-là, tous les procédés littéraires vont pouvoir être repris, y compris justement ceux de la modernité, mais ils vont être déplacés, ils vont être étrangéisés, ils vont être négativisés en quelque sorte. C'est-à-dire que la littérature doit apprendre à se désappartenir à elle-même et à s'étrangéiser pour pouvoir prendre acte dans la langue, dans les formes artistiques de la désappartenance comme rupture anthropologique avec le génocide. Donc dessiner et figurer ce devenir étranger de l'homme à lui-même.
Alors vous dites pas un adieu à la littérature, mais on pourrait dire une refondation en quelque sorte de la littérature. Et pourtant, tout a commencé par un interdit majeur posé à la littérature. Peut-être que vous pouvez y revenir. C'est donc l'interdit d'Adorno qui a fait... Alors, je ne sais pas s'il a fait école, mais en tout cas, il a fait paradigme, en tout cas, en Europe.
Il a même fait table de la loi, en fait. Hein, cette phrase, on dit le dictum d'Adorno, hein, donc il a prononcé en 1951, écrire un poème après Auschwitz et barbare, et ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d'écrire aujourd'hui des poèmes. Donc quelque chose de très très radical, hein, qui a été donc publié en 1951, repris dans le volume Prisme.
La littérature coupable, vous écrivez.
Hein, oui, alors il parle de la poésie, hein, barbare après Auschwitz, hein, mais il s'agit pas seulement de la poésie, évidemment, il s'agit de la création, hein, toute création artistique. Et d'ailleurs, dans un texte ultérieur qui s'appelle Engagement en 1962, il revient sur cette idée. Hein, au fond, ce qu'il cible là, ce qu'il refuse, c'est l'idée de catharsis, même s'il prononce pas le mot. Il refuse l'idée qu'on tire une jouissance c'est un plaisir esthétique hein, de ce qui s'est passé et ce qui ferait, selon lui, offense hein, aux victimes. Il utilise une formule forte, hein, il dit « on se sert d'elles pour fabriquer quelque chose qu'on donne en pâture au monde qui les a assassinées ». Et alors, à mon avis, il y a un malentendu. C'est-à-dire, je pense que ce dictum était important hein, dans l'Allemagne des années 40. Très certainement, il a été bon, je pense, que Adorno l'exprime publiquement avec force. Mais évidemment, ensuite, ça a engendré toute une série d'allégeances au dictum et puis de protestations, hein, avec quand même aussi des impasses. À mon avis, il y a un malentendu qui est le « on se sert d'elle pour fabriquer quelque chose qu'on donne en pâture au monde qui les a assassinés ». C'est-à-dire qu'Adorno n'intègre pas l'idée, et au fond, il ne le fera jamais véritablement, que les victimes ont parlé, ont écrit. Ce n'est pas seulement ce « on » qui se sert d'elles, c'est que les victimes elles-mêmes, évidemment. Mmh. Et c'était le cas, bien sûr, en Allemagne aussi. Hein. Donc il y a eu des survivants qui ont, dès les années d'après-guerre immédiatement, et puis dans les années 50 et 60 encore plus, ont écrit, y compris des fictions. C'est-à-dire que non seulement il y a eu des poèmes, hein, il y a eu évidemment le cas exemplaire de Paul Celan, mais aussi de Nelly Sachs, hein, et que donc opposé en Allemagne à Adorno, hein, pour montrer que non, il y avait bien justement possibilité et même nécessité de faire de la poésie après Auschwitz. Mais fiction aussi, c'est-à-dire il y a eu les auteurs comme Grete Weil, Edgar Ilsenrat, Jurek Becker, qui dans les années 60 hein, ont écrit des fictions, même inspirées par l'idée que la fiction et même le mensonge peuvent être nécessaires dans ces conditions-là. Donc une espèce de légitimation de la fable qui va à l'encontre de ce que disait Adorno. En fait, en Allemagne, c'est surtout avec les grands essais de Jean Améry, hein, qu'au fond, un jeu, une subjectivité de témoin survivant s'est transformé véritablement en jeu d'auteur. Hein, c'est-à-dire que le statut d'auteur du témoin, c'est à mon avis stabilisé à ce moment-là, ou en tout cas c'est imposé avec la puissance de la pensée d'Améry et le très grand succès qu'il a eu en Allemagne. Même si lui, il était exilé en Belgique. Et donc, il y a eu des effets importants hein, de ce geste magistral de Jean Améry. Et néanmoins, il n'a pas réussi à se faire reconnaître comme romancier. Son grand rêve, c'était d'être reconnu comme romancier. Il n'a pas pu l'être. C'était uniquement comme essayiste. Donc là encore, il y a quelque chose qui, au fond, relevait de cette méfiance à l'égard de la littérature.
Alors, en France, l'interdit a porté davantage sur la fiction et on pourrait dire que c'est Claude Lanzmann avec Shoah qui a joué le rôle de la statue du commandeur en quelque sorte, lui qui voyait dans la fiction la transgression la plus grave.
Oui, en fait, Lanzmann a dit des choses extrêmement subtiles sur la fiction. À chaque fois qu'il a parlé de son propre film, il est très subtil quand il parle de son propre film. Justement, il a parlé de fiction du réel. Il y a dans son film, bien sûr, des procédés de fictionnalisation. Il les a commentés lui-même. Il a même dit qu'il s'inspirait du roman policier ou du récit d'enquête à certains moments de son film. Mais évidemment, c'est autrement hein, qu'a été reçu Lanzmann et qu'il a été commenté, y compris par les intellectuels d'ailleurs américains, comme Shoshana Feldman. Et donc tout ce qui s'est passé autour de la réception du film de Lanzmann dans les années, fin des années 80 et années 90, a contribué en fait à créer un nouveau paradigme assez proprement français, bien que Shoshana Feldman y ait joué un rôle fondamental, qui était celui de l'art comme témoin. Seul l'art peut témoigner, hein, la posture de Lanzmann hein, et le film lui-même, la très grande réussite artistique du film, malgré l'interdit de catharsis, hein, était véritablement la seule manière pour, selon Shoshana Feldman, de témoigner. Au fond, c'est ce que Derrida lui-même aussi, dans sa théorisation du témoignage dans les années qui suivent, a contribué à faire, alors en reprenant justement Celan, mais commenté d'une certaine manière, en reprenant Blanchot, pour développer des paradoxes, le témoignage comme paradoxe, témoignage de l'impossible, mais nécessaire témoignage. Donc une forme de négativité et qui... qui a contribué en fait à sublimer, à mon avis, le témoignage en tant que poème, en tant qu'art. Voilà. D'accord. Donc, ça, à mon avis, ça jouait un rôle fondamental à ce moment-là, alors que dans l'après-guerre en France, il y avait de tout autre modèle hein, du témoignage, et du témoignage y compris littéraire. Il y avait ce qu'on appelait la littérature concentrationnaire, avec les grandes œuvres de David Rousset, de Robert Antelme, évidemment, et de Jean Cayrol, hein, très différentes, et avec d'autres tentatives hein, de créer des jonctions, des articulations entre le monde du camp, l'expérience du camp, et le... pas celle du génocide, bien sûr, ici, hein, et le monde de l'art, hein, dans le contexte de tel quel, donc de l'avant-garde française, où Cayrol a joué un rôle important. Et puis, il y avait eu d'autres tentatives aussi d'ordre un peu anthropologique ou sociologique, avec le travail extrêmement important de grands pionniers, de Michel Borowicz, qui était donc un survivant polonais, mais installé en France, et qui a, dès les années 50, hein, début des années 50, il a fait une grande thèse sur le titre, c'est « Écrit des condamnés à mort sous l'occupation nazie », en s'interrogeant sur le passage à l'acte de l'écriture sous la menace collective. Donc là, il y a vraiment une avancée très importante de Borowicz qu'on commence seulement, qu'on a réédité hein, dans les années 90, et qu'on commence seulement à réexplorer, relire de près.
Alors, vous faites aussi un détour par les États-Unis qu'on ne peut pas faire là maintenant, où un autre paradigme était en vigueur, celui de l'indicible. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à ce qu'on a appelé la Hurpan littérature, c'est-à-dire la littérature en yiddish, enfin la littérature des témoins directs de l'Est de l'Europe, parce que là, ça s'est joué différemment, que ce soit en Europe orientale ou en URSS. Vous le dites d'ailleurs très bien, un radical déplacement de perspective s'impose devant la production issue des villes et bourgades d'Europe orientale. Un tout autre monde s'y confronte à l'événement dans un présent de terreur, puis dans la hantise d'un deuil infaisable et d'un monde à refaire. Je voulais aussi qu'on entende un peu votre langue, parce que c'est aussi un livre qui se lit très bien, parce que vous avez une très belle écriture. Donc c'était l'occasion. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette littérature dont oui. On ne sait rien, c'est ça dont je parlais tout à l'heure, l'arbre qui cache la forêt, c'est de cette forêt qu'on ne connaît pas.
En fait, elle est moins connue, mais il y a des gens qui connaissent très très bien ça, oui, et bien beaucoup sûr, mieux que moi en France, hein,
le comme
Rachel Ertel. Comme
moi, ou, bien sûr.
Ouais. Mm. Donc c'est des choses sur lesquelles des gens ont déjà travaillé avant moi, bien sûr. Hein, mais ce qui me semble très important dans cette littérature, c'est justement qu'en effet, en France... Aux États-Unis, c'est tout à fait différent. Elle a été davantage reçue hein, à cause d'une émigration, justement, aux États-Unis. Hein. En France, elle est très peu connue parce que, justement, le canon de la littérature concentrationnaire, où ont joué ces écrivains français que j'évoquais tout à l'heure, et davantage encore le texte de Primo Levi, a en quelque sorte occulté ce qui relevait de cette littérature-là, qui portait spécifiquement sur l'extermination des Juifs, et qui se faisait en recourant à des modèles archétypiques issus du judaïsme religieux qui, au cours des persécutions vécues par les Juifs, avait constitué en fait un véritable réservoir poétique de genre, de forme, de procédé, de grands archétypes, hein, le déluge, l'exode, le Kiddush Hashem. Donc tout ça s'est réactualisé en quelque sorte, hein, d'abord au moment des grands pogroms, et puis ensuite à l'épreuve de la Shoah, mais c'est réactualisé évidemment sur un mode problématique, hein, au prix d'une crise fondamentale, c'est-à-dire que tous ces textes reprennent, qui sont habités, parce que beaucoup d'entre leurs auteurs ont été formés hein, à l'éducation religieuse, donc ils sont habités par tout cela, mais ils expriment quelque chose comme une interrogation fondamentale, bien sûr, sur la disparition de Dieu, il y a une forme d'égarement, hein, de grande recherche de repères, hein, mais qui néanmoins s'appuie sur ces modèles, sur ces presque ces jeux formels hein, qui deviennent hein, des sources, des forces pour arriver à exprimer pourtant quelque chose qui ne relève plus des persécutions antérieures, mais de quelque chose d'un anéantissement beaucoup plus radical. Et ça, c'est aussi une réponse à Adorno. Là, je cite dans le chapitre qui est consacré à cette littérature-là, je cite au début Piotr Avitch qui lui a écrit et vient justement de la région de Lvov, qui a été une région absolument sinistrée, mais d'une manière extraordinairement violente, et donc qui dans dans une préface à Sablier de Danilo Kish, lui-même écrivain yougoslave, dit, voilà, on peut répondre à Adorno par Jérémie, prophète et scribe de son état, hein, qui a traité l'événement de la destruction du temple, hein, événement devenu archétypique, avec le langage de la poésie, le seul adéquat. Il y a évidemment quelque chose comme une provocation de la part de Ravitch, répondre par Jérémie à Adorno, mais quand on connaît l'œuvre de Ravitch, qui lui-même est un héritier, quoi qu'en langue française, de cette littérature-là, on comprend que c'est parfaitement cohérent.
Alors, en parlant de poésie, vous nous faites découvrir une œuvre, celle de Anatoli Kouznetsov, voilà, écrivain donc non-juif, qui a l'auteur de Babillard, roman document. Vous dites une puissante création qui attend toujours ses lecteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors ça, c'est dans le chapitre qui concerne la littérature des ravins, qui est une toute autre littérature que la littérature de Hurban, bien qu'elle soit en partie...
Ah d'accord, je pensais que vous la...
Non, en fait, c'est autre chose. D'accord. Parce que la littérature des ravins, ça s'est vraiment constitué d'ailleurs assez récemment, hein, à la faveur d'ouvrages récents, en particulier le livre de Assia Kovrighina et Annie Eppelboin. Ça s'est constitué vraiment en corpus tout à fait autonome, étant donné que là, il y a eu des circonstances à nouveau différentes. Hein, donc il y a eu cette spécificité de ce qu'on appelle la Shoah par balle, et qui a engendré un autre type de littérature encore, qui est beaucoup moins une littérature de survivants, justement, qu'une littérature... Parce que là, les fusillades du front de l'Est, il y avait tellement peu de survivants que peu ont écrit à partir de cette histoire. Et donc, c'est ça, en grande partie une littérature issue de ceux qui sont venus sur les traces d'eux, qui ont vu, c'est-à-dire les correspondants de guerre que Staline avait envoyés justement sur le front pour écrire sur la guerre, et qui donc, juifs pour beaucoup d'entre eux, dont Grossman, dont Ilya Ehrenburg, bien sûr, qui vont devenir les coordonnateurs du fameux livre noir, se sont penchés sur ces fosses, ou bien sont revenus dans leur ville natale et ont trouvé justement plus personne, comme Grossman qui parle de la disparition de sa mère, et ont écrit des poèmes, ou pour Grossman bien sûr des romans ensuite, où c'est dit le trouble et même l'abîme vécu de l'intérieur par ces grands écrivains juifs communistes qui étaient les chantres du régime communiste et qui à ce moment-là évidemment ont opéré une mue intérieure et sont devenus les destinataires de moult courriers, en particulier Ehrenburg, donc qui a collecté un très grand nombre de textes archiver en fait ces événements-là, puisqu'il y avait si peu de survivants. Et donc une poésie très particulière, la poésie des ravins, s'est développée pendant quelques années, puisque dès 1947, ça a pu être publié jusque-là, dès 1947 c'était fini, grand interdit, échappe de plomb qui a duré pendant des décennies. Alors Alexandre Kouznetsov a écrit justement pendant les années de plomb, je dirais, alors qu'il avait vécu lui, donc à Kiev, petit Ukrainien qui avait vu ses copains juifs partir, etc., et qui avait entendu les fusillades continuelles de Babillard tout près de Kiev. Et donc il est revenu, comme il le dit dans son livre Babillard, sur le ravin dès que les nazis ont été emmenés. Et donc il a touché les cendres du ravin, et c'est à partir de ça, à partir de ce geste, et à partir du journal qu'il avait écrit enfant, qu'il a ensuite écrit un extraordinaire texte, à mon avis, qui évoque à la fois le génocide, mais aussi, parce que c'était pas, les Juifs ont été fusillés en masse, mais d'autres, tout ce qui ressemblait en fait à un dissident, à un opposant, était fusillé dans les années qui ont suivi, et qui a aussi évoqué justement l'occupation soviétique, parce que pour un Ukrainien, les Soviétiques étaient aussi des occupants. Et donc il y a eu aussi une destruction de Kiev par les Soviétiques, est ce dont témoigne également Kouznetsov, et il le fait avec une très grande violence, une très grande radicalité justement dans la critique précisément de la culture et de toutes les illusions humanistes et de toutes les idéologies. Au fond, c'est un grand livre anti-idéologique extrêmement, extrêmement dur.
Et c'est tout le mérite de votre livre de rendre justice, de faire connaître des œuvres qui sinon tomberaient dans l'oubli. Vous le dites d'ailleurs avec la comparaison du mémorial. Un mémorial, c'est un lieu de mémoire, mais aussi d'oubli. Oubli du silence des victimes, jusqu'au dans le bruit fait pour parler en leur nom, mais oublient ou sont tombés aussi certains textes. Merci Catherine Cocchio. Nous aurons l'occasion, je m'en réjouis, de vous inviter de nouveau la semaine prochaine pour donc une nouvelle émission consacrée à votre livre « La littérature en suspens ». Merci et à dimanche prochain.
Merci.
C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net.